Babil, Babel, Babylone. Deuxième plateau dans le cadre de la thématique Babil, Babel, Babylone, développée en collaboration avec le journal de la Friche. Voici Roots, autour des questions de la place des minorités dans la ville, du déracinement et des droits civiques. L'occasion d'une comparaison entre notre vieille Europe et la place des minorités dans le système politique américain. Pour y répondre, Robert Foulilove, professeur de sciences de l'éducation et de la santé à l'Université de Columbia, accompagné de sa femme Mindy Foulilove, psychiatre, et de Michel Cantal Dupart, architecte et urbaniste. Un entretien recueilli par Frédéric Kahn et votre serviteur, Xavier Thomas. On commence tout de suite, à propos de minorité, par une définition de la notion de minorité made in USA. Robert Foulilove.
Oui, il faut dire premièrement que je suis chercheur en santé publique américain, qui veut dire qu'il y a quelques définitions assez précises utilisées par le gouvernement américain pour définir les membres des groupes ethniques et raciales dits minorités. Donc pour nous, il y a 5 grands groupes. Et ça, c'est très important parce que c'est une façon d'assurer le gouvernement que dans tous les domaines importants où on va, par exemple, dépenser de l'argent public, toutes les représentations faites pour chaque communauté est exactement comme il faut. Donc, les grands groupes sont les suivantes. Les Noirs, dits African American en anglais. Les Hispaniques, qui peuvent être blancs, noirs, presque n'importe quelle race. C'est une groupe ethnie et c'est vrai qu'on mélange les deux en faisant un groupe comme ça. Les Asiatiques, c'est-à-dire les Asian Pacific Islanders, les Amérindiens, American Indians, et surtout les Blancs qui font la majorité de notre pays. Mais, par exemple, c'est très intéressant de constater que la grande ville de New York, qui est quelque chose que j'ai vu beaucoup pendant les émissions de télévision ici en France, est une ville avec beaucoup de minorités. Enfin, la plus grande minorité dans la ville de New York, c'est les Blancs. C'est-à-dire que c'est une ville avec 65% de sa population composée des minorités ethniques.
Robert Foulilove, vous l'évoquiez à l'instant, vous êtes professeur, vous travaillez dans l'Université de Columbia aux États-Unis et vous êtes notamment concerné par les problèmes de santé publique à destination des minorités, par des problèmes d'éducation aussi. Dans le cadre de votre travail, vous avez développé une méthodologie très particulière qui semble-t-il a beaucoup de succès, quelques guidelines, quelques lignes fortes dans cette méthodologie, notamment la volonté dans les actions que vous menez à destination des jeunes, la volonté de ne faire aucune référence à la religion et à la politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix?
C'est pas vraiment un choix, parce que généralement les questions se posent dans une façon tout à fait différente. Et c'est pas moi tout simplement qui a créé ce genre de travail. De travailler avec les populations affectées par tous les problèmes de santé publique. Nous avons trouvé que les méthodes les plus efficaces sont les méthodes que les gens affectés tiennent au corps. Donc, si on accepte que les messages que nous avons essayé de passer aux populations, par exemple, à risque pour je ne sais pas quelle maladie, mais sida, par exemple, toxicomanie, le diabète, quelque chose comme ça. Si on se trouve dans les messages que nous avons fait de notre mieux de créer, d'inventer, si on se trouve dans ces messages, quelque chose qui parle à moi, on sait bien qu'on a vraiment fait une réussite assez importante. Donc, c'est les gens qui disent, oui ou non, si cette méthode est vraiment le plus efficace. Et peut-être ma femme, qui a beaucoup parlé sur ce sujet, a quelque chose à ajouter.
Mindy Thompson.
Aux États-Unis, nous sommes un peuple assez avec le marketing target. Donc, toute la population est divisée dans les groupes et toutes les choses sont dirigées vers un groupe ou un autre. Il y a dans la stratégie de marketing que 53 groupes aux États-Unis. Et c'est les groupes divisés par classe, par race, par lifestyle. Et donc, on peut comprendre tout de suite les stations de télévision, les chansons sur la radio et tous les trucs qu'on va acheter. Et donc, dans ce système de division assez précise, le santé publique a un comportement dans tout le sens de tous les autres dans notre pays. Donc, nous sommes un pays très divisé.
Et c'est-à-dire très divers et avec... avec toutes les divisions imaginables, avec une population de 300 millions de personnes. Donc, c'est assez important d'être absolument sûr que quand on parle, on a la chance d'être écouté, entendu, par tous les groupes ciblés par les messages.
Ciblage, effectivement, c'est l'autre axe fort de votre travail. Vous ne croyez pas tellement à une forme d'universalisme. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Vous ciblez très, très précisément les actions que vous menez à destination des minorités, notamment les actions qui concernent l'éducation et, je le rappelle, la santé publique. Une action est donc particulièrement prévue pour une population donnée dans son cadre culturel donné.
Oui, d'accord. Et pour nous, ce qui est très important... c'est la différence que nous avons essayé de décrire avec nos articles et quelques livres que Mindy a écrits. C'est-à-dire tout simplement qu'il faut changer un petit peu le point de vue de nos collègues, les scientifiques qui travaillent avec les grandes communautés. C'est-à-dire que c'est très important de comprendre bien le comportement des individus. Et c'est bien évident que la culture de chaque individu a quelque chose à faire avec les décisions qu'il va faire ou qu'elle va faire pour telle ou telle raison. Mais nous avons essayé de dire aussi que les communautés aussi sont très importantes. Si on examine de près tous les grands problèmes de santé publique, on va voir que c'est pas tout simplement des individus, mais des quartiers. Je travaille beaucoup avec Mindy dans le domaine de SIDA. Et nous avons essayé de dire depuis une vingtaine d'années qu'il ne faut pas tout simplement regarder l'individu infecté avec VIH, mais aussi où se trouve cette épidémie. Parce qu'on va voir que ce n'est pas tout simplement les individus touchés, mais les quartiers. Et comme preuve, nous avons utilisé les données fournies par notre Centre pour le contrôle des maladies qui donnent que 5 États aux États-Unis à 55% de tous les cas de sida réparés depuis le début de l'épidémie. Que dans la ville de New York, là où nous travaillons, nous avons, dans un parcours de 2 heures de notre bureau, 25% de tous les gens affectés et infectés par le sida aux États-Unis. Et on dit, c'est pas tout simplement une épidémie qui se transmise dans une façon aléatoire. C'est des quartiers pauvres, c'est les quartiers des gens de couleur les plus touchés. Et nous avons dit, c'est un indice assez important qu'il faut suivre. C'est un indice assez important qu'il faut examiner. Et c'est une tension qui existe entre nous et nos collègues qui indique que, bon, très bien, c'est très intéressant, mais vraiment, si on est dans une démarche de ciblage, c'est plus important de chercher chaque individu. Et nous avons dit non, très bien. C'est très bien de penser comme ça, mais c'est plus important de penser plus globalement. Il faut penser niveau quartier, il faut penser niveau culturel, parce que les deux vont ensemble.
Les deux vont de pair, effectivement. Parlons maintenant, si vous voulez bien, de la présence des minorités dans la ville. et de leur arrivée, de leur maintien dans cette ville, et de quelque chose que vous appelez le « root shock », c'est-à-dire le déracinement. Déracinement, bien sûr, lorsque les étrangers arrivent d'une autre contrée, d'un autre pays, et qu'ils sont tout à coup placés dans un environnement qui est totalement nouveau pour eux, mais aussi, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter avec Michel Cantat-Dupart, un déracinement qui provient du fait que la ville change en permanence, qu'elle est en perpétuelle mutation et que donc elle est susceptible de provoquer sans cesse, au fil de son évolution, des déracinements. Parlons peut-être tout d'abord de cette notion de déracinement à l'arrivée. Je crois que vous avez, Mindy, travaillé aussi sur ce thème, sur ce « root shock ».
Oui, beaucoup. Nous avons fait des études sur les rénovations urbaines aux États-Unis qui ont passé il y a 50 ans. Il y a un programme énorme de notre gouvernement fédéral qui est passé dans 1 000 villes aux États-Unis. Donc, la plupart de ces projets, 60%, sont dirigés vers les quartiers noirs. Donc, qui fait que 13% de la population, mais la majorité des gens déplacés par ces projets de rénovation urbaine. Et nous avons interviewé les gens 40 ans ou 50 ans après, et aussi les gens qui font la planification et les gens qui étaient dans le gouvernement dans ce temps-là. Et nous avons constaté que les rénovations urbaines créer cette espèce de choc des racines, root shock, qui était très dur pour les populations. Ils ont perdu argent, ils ont perdu culture, ils ont perdu force politique, ils ont beaucoup perdu, et c'est pas du tout, il n'y a pas du tout un management de toutes ces choses dans la ville. Et la chose qui suit aux États-Unis est que les gens déplacés ont été déplacés encore il y a 10, tous les 10 ans. Donc, nous sommes maintenant dans un déplacement qui suit ce qu'on appelle la gentrification. Et ça, c'est que les gens avec argent arrivent dans un quartier pauvre et déplacent les pauvres. Et ça c'est incroyablement efficace pour jeter tous les pauvres de la ville. Donc, maintenant, aux États-Unis, on pense que les pauvres vont être rejetés de la ville et placés dans les banlieues ou même dans les lieux plus loin.
Blow down your door. Wanted less, but you got more. Blow down your door. Walk the path, walk the floor. If I, devil's gonna make you turn. Red, hot and burn. Devil's gonna make you turn. Never lose and never learn.
Michel Cantat-Dupart, sur cette question du déracinement et sur la manière dont ce déracinement est un peu constamment entretenu par l'évolution de la ville.
Alors, moi je voudrais apporter un petit correctif, c'est que la ville, c'est ce qui permet à des gens qui se déplacent de s'enraciner. Ici à Marseille, par exemple, c'est une ville à l'expérience absolument formidable. Qui est Marseillais ? Un peu les gens qui sont nés à Marseille et beaucoup des gens qui sont venus à Marseille et on le sait très bien. Quoi. C'est une, C'est, les villes permettent l'enracinement. Et certaines villes permettent un enracinement plus facile que d'autres. Les villes portuaires sont plus ouvertes à l'autre, à l'échange, et donc permettent un enracinement plus fort. Bon. Et ça, c'est la première chose. La seconde chose, ce qu'il faut voir, c'est que à cet enracinement, se crée, et c'est ce qui est très bien dit par Mindy Fulilov, et qui est un peu notre travail ensemble, enfin ce que l'on fait ici et là-bas, dans nos échanges interculturels d'observation de deux sociétés totalement différentes, de deux pays qui fonctionnent très différemment, et administrativement, et même politiquement. C'est les mécanismes d'exclusion. C'est-à-dire que pendant très longtemps, nos villes avaient des barrières.
Les barrières de l'octroi, de la douane.
Les barrières d'octroi, mais même la barrière de la mer, de l'autre côté, l'outre-mer, les enceintes. Et que notre ville moderne, qui a détruit souvent les enceintes, dresse des enceintes virtuelles, qui sont des enceintes économiques, qui sont des enceintes marquées par une architecture, par un urbanisme qui n'est pas celui... je prends un exemple, Bellevue n'est pas le Vieux-Port, c'est évident, ça ne ressemble pas. Hein. Et donc, cette antinomie crée une petite exclusion virtuelle, que tout le monde sait, et s'il y a phénomène de rénovation, ce qui est souvent le cas, ça crée une plus grande exclusion, c'est-à-dire que ça met les gens en situation de précarité. Et l'exclusion et la précarité... c'est la base de toutes les perversités urbaines, les déviances, la délinquance, le mal-vivre, la maladie, maladie mentale, maladie de l'être, toxicomanie, enfin tout ce qu'on connaît très très bien et sida. Comment nous nous sommes rencontrés, nous? C'était dans une conférence internationale sur le sida. Enfin, sur la ville... Et la comparaison de trois villes, New York, Londres et Paris, avec trois thèmes, l'exclusion, la toxicomanie et le sida. 80% des gens qui étaient là parlaient du sida parce que c'était là où les gens étaient les plus mobilisés, des médecins, des partout dans les trois villes. Et il y avait des gens comme moi qui étaient très marginaux par rapport à cette... qui parlaient de la ville. Et on m'a demandé d'ouvrir ce séminaire. Et c'est là où tout de suite, Bob et Mindy Fulilov... sont venus me voir en disant « Mais attendez, vous parlez de territoire, qu'est-ce que vous pensez ?» Et on a commencé à travailler ensemble, c'était en 1993, il y a de ça 14 ans, et on travaille, on a mis du temps à peaufiner notre travail, notre observation des choses, et c'est ça ce qui nous intéresse, c'est ces mécanismes qui sont très différents aux États-Unis et en France, d'exclure, de repousser, de ne pas intégrer.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'évoquait à l'instant Mindy Fulilov sur cette question de la gentrification de certains quartiers, du fait que des quartiers pauvres sont investis par des bobos, et qui viennent peu à peu exclure ceux qui en étaient les habitants entre guillemets légitimes.
Alors, entendons-nous bien. On aime beaucoup en France à l'heure actuelle, on parle, il y a un terme moderne qui est la mixité sociale. La mixité sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des quartiers d'exclus, s'il y a des quartiers de pauvres, il faut bien que les gens qui sont riches puissent arriver, qu'il y ait mixité. Alors, vous avez une mixité qui est toute simple et qu'on oublie souvent, c'est les gens nés du quartier, qui arrivent à avoir une situation, qui s'en sortent, et dans ces quartiers, ils sont exclus, c'est-à-dire que le propriétaire, le bailleur social, va les exclure, va leur dire « non, il faut aller ailleurs parce que vous gagnez trop d'argent » ou « pas assez » ou « c'est mal fichu ». Prenons quelque chose tout simple. Quelqu'un qui devient instituteur, célibataire, il ne peut plus habiter en HLM. Voilà, on lui dit d'aller ailleurs, donc il va partir, on ne sait où, se débrouiller. Hein. Eh bien ça, c'est dommage parce qu'il n'y a pas ce qui pourrait être une gentrification douce, c'est-à-dire les fils du quartier ne peuvent pas rester dans le quartier. Ça, c'est imbécile. Bon. D'autre part, les enseignants de l'école disent « Tiens, dans le fond, on va venir habiter à quelques mètres où des gens arrivent », c'est une gentrification. Elle est nécessaire. Là où vous avez raison, et ce que dit Mindy est une autre gentrification, ce qu'on voit qui est en train de se passer à Pékin de façon radicale. Enfin, alors là, ils ne se posent même pas la question dans un système totalement... Enfin, je pense qu'ils paieront ça beaucoup trop cher. Enfin, la culture chinoise est sérieusement cognée, mais au-delà de cela, ça posera un problème humain. Mais on rase un quartier, mais violemment, on rase un quartier et on le change pour un quartier plus riche. C'est un travail qu'on a vu se faire et on est intervenu ensemble, moi comme expert, eux comme experts auprès de l'école de santé publique de Pittsburgh et moi comme leur expert d'experts, quoi, hein. On a travaillé ensemble à Pittsburgh et on a vu tout à fait ce qui allait se passer dans ce ghetto noir qui s'appelait District Hill, où il y avait une gentrification très forte. C'est-à-dire que, à part le véritable habitat social qui était intouchable, on rasait les pavillons un peu jolis, enfin les pavillons, les pavillons New Orleans, enfin des trucs, c'était rasé pour être remplacé par des demeures. Et c'est ce qu'on a vu. Quelle a été notre réponse? Ce n'a pas été une réponse comme Bob aurait pu donner, une réponse de statisticien. Ça n'a pas été une réponse médicale comme Mindy aurait pu donner, puisque Mindy est psychiatre. On a donné une réponse culturelle en disant on est en train de rayer votre histoire. Et ce qui est formidable, c'est que les associations noires ont récupéré, ont dit oui, c'est notre histoire. Et à partir du moment où ils ont recherché à réenraciner leur histoire, leur route, ça a amené toute la ville, tout Pittsburgh, à se réenraciner sur chacun des quartiers. Et dans ce rapport absolument étrange que j'ai vendu comme une idée un peu folle, qui était retrouver le chemin de la rivière, hein, Fend the River, et c'est devenu un espèce d'emblème aujourd'hui de cette ville. Donc c'est, vous voyez, l'exclusion et l'enracinement peuvent être très liés et que c'est quelque chose, c'est pas forcément radical, mais il faut être très attentif.
Vous parliez à l'instant de mixité sociale, c'est une pratique qui est courante depuis peu de temps, mettons une vingtaine d'années, peut-être le temps d'en faire un petit bilan.
Enfin, c'est toujours très dur, non, dans les quartiers dits sensibles. Les zones, les us, qu'on appelle les us, les zones d'urbanisation sensible, ça n'est pas le cas. Il y a toujours une coupure radicale entre les quartiers pavillonnaires qui les entourent et ces quartiers qui sont stigmatisés par une architecture très repérée, très montrée. Les programmes actuels de rénovation urbaine à la française, où on essaie d'intégrer, de rattacher, c'est tout le plan Borloo, enfin, qui est... où il est significatif parce qu'il y a d'énormes moyens. Est-ce que ce plan maintiendra ses ambitions? Je l'espère, je le souhaite. Mais ce qui est important, c'est que c'est une occasion justement de permettre cette mixité sociale. Et là-dessus, les syndicats, les syndicats patronaux, les syndicats ouvriers qui gèrent une boîte qui s'appelle La Foncière, qui gère le 1% patronal, est d'accord pour réinvestir ces quartiers, c'est-à-dire pour mettre des gens qui travaillent, qui cherchent des habitations, des logements dans ces quartiers. Donc je pense que ça peut jouer une certaine, on va dire, gentrification, entendons-nous, hein, ou tout au moins une certaine mixité sociale. Même si c'est décrié souvent par les puristes qui voient arriver des petits pavillons dans une architecture un peu, comment on va dire, un peu marquée, quoi. Et on dit que ce que vient de faire, ça fait Disneyland au pays des tours. Il n'empêche que je pense que c'est un bon chemin, que c'est ça qu'il faut faire. Sinon, on ne peut pas garder, c'est insupportable de garder des quartiers entiers exclus de la ville. Et donc, c'est des moyens, c'en est un, il y en a sûrement d'autres. Il y a sûrement une chose qui est tout bête, ça s'appelle faire de l'urbanisme, c'est-à-dire faire du développement durable et harmoniser l'environnement, les gens et leur travail.
Dans l'accueil de l'autre, dans l'accueil de l'étranger, différents modèles sont disponibles et sont appliqués en France, aux États-Unis ou dans le monde. Robert Foulilove, le modèle français est un modèle, on pourrait dire, assimilateur. C'est-à-dire que quand on vient de quelque part et qu'on devient français, on doit un peu nier son passé. On entre dans quelque chose qui efface un peu l'identité précédente. Au contraire, le modèle anglo-saxon et peut-être encore plus le modèle américain est tout différent. On reste originaire de quelque part et citoyen américain. Qu'est-ce que vous pensez de cette différence entre ces deux modèles ?
La chose que nous avons insisté, qu'il faut absolument regarder de près, c'est la différence en notre histoire. Nous sommes un pays, aux États-Unis, 100% impliqué dans l'esclavage. Pour deux tiers de notre histoire, l'Amérique et principalement les États-Unis. C'était un pays avec des, esclaves. Et des esclaves ont été libérés, si ça c'est le mot juste, après une guerre si féroce qui a tué plus d'Américains pendant le 19e siècle que tous les Américains tués dans toutes les guerres du 20e siècle, que nous sommes en train toujours de vivre avec les résultats. Et quels sont les résultats? Que nous n'étions pas des immigrants. Nous étions forcés de travailler. C'est très intéressant que maintenant, à Nantes, on est en train d'avoir un forum sur les droits de l'homme. Et hier après-midi, il y a eu une grande cérémonie pour les Anneaux de la mémoire qui a commémoré l'histoire de Nantes dans la traite négrière, qui a beaucoup influencé l'histoire des États-Unis. Et c'était une occasion pour moi de réfléchir encore une fois que la grande différence qui existe entre nos deux pays, c'est que nous sommes toujours dans un système où l'identification de toutes les personnes de couleur dans le pays était un fait de la loi qui a établi le pays au début avec la Constitution américaine. C'est très important de savoir que deux statuts dans cette Constitution a créé le statut pour les esclaves en tant que 60% d'un être humain. C'est très important de constater ça. C'était fait tout simplement pour assurer que le recensement de la population américaine tous les 10 ans aurait à voir la possibilité d'avoir une place pour tous les esclaves. Et donc, le grand débat de l'époque, c'était est-ce qu'ils sont vraiment des êtres humains? Est-ce qu'il faut compter quelqu'un qui est esclave comme une vraie personne, c'est-à-dire un blanc? Et la réponse était non. On est 300e d'une personne. Et depuis, la Constitution a dû, tous les 50 ans, regarder de près ce qu'ils ont fait avec ses origines et le fait que maintenant on pense beaucoup de minorités en tant qu'un statut légal, ça a vraiment ses racines dans la création de notre pays. La différence ici en France, c'est que les troubles que vous êtes en train de vivre maintenant sont plus ou moins modernes. C'est le résultat de je ne sais pas combien d'années de colonialisme. Et maintenant, c'est vrai qu'avec une population de plus en plus diverse, créer une place pour toutes les personnes dans un système qui ne regarde pas les différences de couleur de peau, de religion ou de statut social, c'est vraiment difficile. Mais ce n'est pas du tout la même chose que d'essayer de lutter contre presque 300 ans d'histoire où, avec les débuts de notre existence comme pays, il était nécessaire de faire d'un peuple des esclaves qui a créé vraiment les richesses dont on est très fier, très fier et très capable de jouer dans presque toute notre politique mondiale.
Chicken and creams and Kool-Aid when the refrigerator naked. something don't feel right out here. Now I'm saying, check it out.
Mais cette culture, justement, afro-américaine, comme on l'appelle, de quelle manière, quand même, elle arrive très fortement à se revendiquer comme américaine? Alors, on pense notamment au rap, on pense au blues. C'est souvent à travers les musiques qu'il y a une identité qui arrive à s'affirmer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette affirmation identitaire à travers la culture? On appartient à la fois à une nation, on se revendique comme américain, mais à travers, on affirme une véritable différence de par une pratique culturelle.
Oui, c'est très important de savoir que nous n'avons pas eu un choix. Moi, je suis né à la Nouvelle-Orléans en 1944. Au début de ma vie, c'était très important de savoir comment se bouger, comment se balader dans l'espace. Il était nécessaire de savoir les places pour les Blancs et les places pour les Noirs. C'est-à-dire que l'identification comme un peuple était quelque chose de forcé sur cette population. Et ce que nous avons fait, c'est tout simplement de profiter de cette statue pour créer de l'art, de la musique et, il faut dire, quelques idées sur la liberté, sur la fraternité, sur l'égalité, qui a vu le jour depuis les années 50. Et important de savoir, encore une fois, que ce n'était pas un choix que nous avons fait. C'était quelque chose forcé par les lois de ségrégation, les lois qui ont créé vraiment la façon dans laquelle il était possible d'utiliser l'espace public, la façon dans laquelle on était capable d'utiliser le transport en commun. Et donc, si on a créé quelque chose de cette, pardonnez l'expression, cette merde, c'était parce qu'il était si fort dans les âmes de tous les gens qui ont beaucoup souffert sous ce système qu'on est toujours ici, on est toujours vivant parce qu'on a trouvé le moyen de s'en sortir avec un esprit assez vif et assez solidaire. On a reconnu, on a tout de suite se rendu compte que nous sommes ensemble dans cette situation. Il faut que la solidarité soit les règles du jour et qu'avec cette solidarité, peut-être un jour, on va sortir de tout ça plus fort que c'était le cas au début.
En tout cas, il est remarquable de constater qu'aujourd'hui, l'identité culturelle américaine, l'identité mainstream, elle est constituée de formes culturelles qui ont autrefois été réalisées par des minorités. Fred, tu parlais à l'instant du rap, tu parlais à l'instant du blues. Ce sont bien entendu des composantes culturelles qui sont directement issues du peuple noir et de la minorité noire aux États-Unis. Et aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont assumées par l'ensemble de la population, blanche, noire et autres.
Il y a pas mal de gens, des artistes, qui ont insisté que l'esclavage était très important pour les artistes parce que voilà ce que ce système a créé. Les arts, jazz, le blues, tout ça, c'est vraiment une façon de créer quelque chose des situations assez pénibles, de créer quelque chose de la souffrance d'un peuple pour au moins 200 ans. Et c'est vrai, la force d'avoir survécu tout ça, c'est vraiment quelque chose qui donne pour presque tous les artistes américains la possibilité de créer quelque chose de tout neuf.
La souffrance, juste après, je vous donne la parole, Mindy, et justement, la souffrance d'un peuple est aussi la souffrance des individus, qu'il ne faut pas oublier non plus. Confronté à ce root shock qu'on évoquait tout à l'heure, souvent des problèmes psychologiques dans la difficulté à s'assimiler dans une culture. En France, au tout début des années 80, un psychiatre, vous êtes psychiatre Mindy, un psychiatre nommé Toby Nathan invente ce qu'on appelle l'ethnopsychiatrie. C'est-à-dire qu'il décide que pour traiter des patients, il ne faut pas faire abstraction de leur culture d'origine. Au contraire, et très volontiers, ce psychiatre s'accompagne accompagnés de medicine men, de chamans, de gens venus de la médecine traditionnelle des pays d'origine, souvent africaine, et faisaient rentrer donc ces médecins, ces gourous, ces chamans dans l'hôpital pour aider à traiter les patients, pour qu'ils ne soient pas coupés de leurs racines culturelles. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Elle a été à l'époque extrêmement décriée par l'ensemble, vous l'imaginez bien, de la profession scientifique.
On a fait des travaux pareils aux États-Unis et de ça, je trouve qu'il y a les choses qui ont gagné de travailler dans cette façon. Mais pour moi, la chose la plus importante est de travailler sur la ville parce que vraiment, on crée des maladies psychiatriques par la condition de la vie. Et si on a l'exclusion dans la vie, on crée les maladies par ça. Et la plupart des maladies peuvent être gérées tout simplement par l'amélioration, le management de la ville. Donc, on a que les maladies les plus sévères amènent pour travailler, pour traiter, et ça simplifie les choses. Donc, il faut avoir une ville qui enracine, comme Kendall a dit, tout le monde. Je veux dire que vous avez mentionné juste il y a un moment que toute la population des États-Unis accepte le blues et le rap. Et toutes ces musiques sont créées l'un après l'autre, dont le blues est avant le jazz, et le jazz est avant au même moment de R&B. Et après, c'est le rap. Et qu'est-ce que c'est le rap? Le rap est la voix des horreurs qui ont passé dans les villes des États-Unis, dans les programmes où le gouvernement a décidé d'abandonner les quartiers défavorisés. C'est pas du tout la chose qu'on vit ici en France, défavorisée. Il y a pire que ça. Tous les investissements sont repris, retirés des quartiers. Et donc, comme Quintal a dit, il y a la violence, il y a le crime, il y a le sida. Et c'était ça, c'est pénible, incroyablement pénible. Et donc, les jeunes qui ont subi ces temps ont inventé une musique pour dire, pour exprimer l'horreur de leur vie. Donc, c'est une vraie voix du temps. Et parce que l'apartheid n'existe pas tout simplement pour les Noirs, pour les minorités. Si on est dans un système d'apartheid, c'est pour les Blancs aussi. Tout le monde est dans le même système. Donc, il y a l'horreur des vies des Noirs a beaucoup d'essence pour les Blancs parce qu'ils sont dans le même système. Et donc, c'est pour ça que la musique des Blancs est partout aux États-Unis parce que nous sommes tous dans le système d'apartheid.
La musique est peut-être la seule forme de langage qui ait su devenir universelle, et c'est vrai que toutes les autres tentatives, je pense à l'espéranto, de langage universel ont échoué. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le contexte actuel de la globalisation, de la mondialisation, une mondialisation qui est souvent sur le créneau du commerce plus que sur le créneau de la culture, est-ce que vous pensez que il pourrait exister l'évolution d'une culture universelle, mais qui ne soit pas une culture d'assimilation, qui soit une culture qui sache rester singulière et qui sache laisser la place à la singularité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible, justement, de répondre à la mondialisation commerciale par une universalité culturelle?
Robert, c'est bien Fulilov. Possible, et malheureusement, je pense que c'est vraiment les professionnels de marketing qui vont créer ce langage. Je vois bien que vous avez pas mal de produits américains ici en France. Et la façon de faire le marketing, d'assurer qu'il existe ici en France un marché pour les produits américains, c'est quelque chose de très important. Et pourquoi? la réussite parce qu'on a trouvé les moyens d'avoir un langage qui parle de tous les espoirs, de tous les désirs présents dans l'être humain. Et on commence avec la bouffe. Je suis désolé d'avoir à envoyer de notre part McDonald's et pas mal de trucs comme ça. Mais pourquoi McDonald's est vraiment une réussite? Parce qu'ils ont trouvé le langage qui parle aux jeunes, aux gens qui n'ont pas vraiment le temps de préparer un bon dîner, etc., etc., etc. Donc, on a trouvé les moyens de dire n'importe quel langage, n'importe quelle langue, et donne la base pour communiquer avec les gens. Et la façon de communiquer qui est plus efficace, c'est la façon de trouver qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce qu'il faut faire pour vous donner ce que vous voulez. Et si je réussis à vous convaincre que manger ce que j'ai produit, acheter ce que je vous ai donné, c'est une façon de trouver ce qui est très important pour vous. C'est une façon de dire que on a commencé à créer une langue, sinon un langage universel.
Sur cette question, Michel Cantal-Dupas.
Oui, je voudrais apporter un témoignage parce que c'est très intéressant. Hier, on était donc à cette manifestation sur les droits de l'homme et sur les gens qui rassemblaient les villes négrières, les villes d'où sont partis les esclaves, les villes de la traite, les villes d'où sont partis les esclaves et les villes qui ont été les villes d'aboutissement des esclaves. Et c'était intéressant. Et le président de cette association, qui est le président Sogo, l'ancien président du Bénin, prenait l'exemple de la destruction de l'apartheid. Et il dit, pour détruire l'apartheid, il faut être deux. Il faut Nelson Mandela et il faut en face celui de Clair. C'est-à-dire un Afrikaner qui accepte et qui dit, il faut être deux. Et pour un maintien de la culture, je ne pense pas qu'il peut y avoir un jour une culture universelle. Il faudra toujours qu'il y ait pluralité des cultures. Il faut que les cultures se rencontrent. Quand on parle des villes, chaque ville a sa culture. Regardez, en ce moment, nous sommes à la Belle de Mai, à Marseille, et puis au même moment, là, à une demi-heure en train, il y a le Festival d'Avignon. Alors, mais c'est deux cultures, c'est deux mondes différents qui pourraient se connaître, qui ne se connaissent pas en ce moment, hein, qui peuvent se connaître. C'est deux expressions culturelles qui ont leur valeur. Il y a une ville qui a fait ce choix, une ville qui a fait un autre choix. C'est comme ça. Et c'est cette rencontre en permanence des gens. Et une chose qui est très intéressante, vous voyez, Mindy et Robert Foulilov, ils parlent remarquablement français. Ce n'est pas une tradition aux États-Unis d'apprendre le français. Ils n'ont plus à apprendre l'anglais. On leur conseille plutôt d'apprendre l'espagnol, parce que c'est comme ça, et pourquoi pas le russe ou le chinois. Mindy Foulilov, elle a appris à parler français. Elle comprenait très bien le français, mais elle ne le parlait pas. Elle a appris à le parler pour pouvoir échanger avec moi, parce que moi j'étais plus paresseux, et avant, elle a très vite compris qu'avant que je réussisse à m'exprimer remarquablement bien en anglais, il valait mieux, que c'était plus facile pour elle d'apprendre à s'expliquer, à parler en français. Mais Bob, qui est le premier qui a appris le français grâce à la radio. Il a appris le français en écoutant, excusez-moi de prendre une autre radio, mais RFI. C'est en écoutant tous les jours RFI qu'il a appris à parler français. Puis je voudrais dire une chose, parce que ne le disent pas, mais Bob Robert a été compagnon de Martin Luther King. Et c'est important dans sa démarche d'être maintenant comme grand professionnel, grand statisticien à l'école de santé publique de la Columbia University, d'avoir été quelqu'un qui a toujours milité pour une idée, et où il est aujourd'hui, il y milite encore, et encore aujourd'hui ici à Radio Grenouille. C'est une façon aussi de porter son combat. Et ça, c'est toujours un peu émouvant.
Eh bien, la lutte continue et je vous propose qu'on parle maintenant justement de la notion de participation politique des minorités à la ville. Il paraît relativement aberrant aujourd'hui que ceux qui vivent dans l'espace de la ville n'aient pas droit de citer complet, c'est-à-dire droit aussi de participer aux choix, de participer aux élections, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur origine. Mindy et Robert Foulilov, qu'est-ce que vous en pensez?
Nous sommes d'accord.
Surtout, nous avons assisté à pas mal de colloques, de forums, de conférences, et on était vraiment étonnés de voir des experts de la ville, des sociologues, des psychologues, des personnes qui s'occupent principalement des problèmes des quartiers dits défavorisés ou sensibles. Mais jamais, jamais, dans tous les colloques, est-ce qu'on a vu la participation d'un résident de ce quartier, de ces quartiers, quelqu'un qui a bel et bien capable de s'exprimer bien quels sont son quotidien, quels sont les problèmes qu'il doit affronter tous les jours. C'est l'habitude aux États-Unis, même si nous n'avons pas vraiment réglé tous nos problèmes, nous n'avons pas trouvé les résolutions. C'est notre habitude quand même d'inviter tous les partenaires, tous les acteurs de la ville, de participer dans les discussions, les collaborations où on va faire de notre mieux de gérer des problèmes. D'avoir un pays comme la France où l'éducation fait que tout le monde parle très, très, très bien. Je vous invite de faire une comparaison entre des émissions de l'actualité aux États-Unis avec les hommes sur la rue et les actualités françaises où on a le même interview avec les hommes et les femmes de la rue. Vous allez voir la différence entre la qualité de leur communication, la densité de l'information qu'ils ont su passer. C'est vraiment une différence remarquable. Et moi-même, qui a de temps en temps très, 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 très... J'ai vu mes efforts de m'exprimer bien en français avec un stress énorme. Je trouve moi-même qu'il y a des enfants qui parlent en français beaucoup plus soutenu que le mien. Et en pensant de ça, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on a des forums publics où on n'a pas vraiment invité tous les gens avec un intérêt dans tel ou tel sujet d'avoir le voir entendu?
Robert, tu as participé dans les années 60 au mouvement Movement for Civil Rights, qui visait à l'époque, bien sûr, à donner le droit de vote aux gens de couleur. Est-ce que tu ne penses pas que ce qu'on évoque à l'instant, c'est-à-dire le droit de vote à tous dans la cité, quelle que soit leur nationalité, c'est un peu du même ressort? C'est le nouveau mouvement pour les droits civiques?
C'est absolument parfait. À l'époque, l'expression que nous avons utilisée était « one man, one vote ». Un homme, une vote. Une voix. Et c'était très, très, très efficace pendant les années 60. Et voilà la différence. Presque toutes les grandes villes des États-Unis ont au moins un maire noir, une maire noire ou hispanique, c'est-à-dire toutes les possibilités soient présentes actuellement. Et même si ça n'a pas vraiment réussi à résoudre tous les problèmes de la ville, on a au moins la sensation que éventuellement, avec la capacité de inviter la participation de tous les acteurs de la ville, éventuellement, on va trouver les moyens de s'en sortir. Ici en France, je pense que notre modèle a quelques possibilités à proposer pour les gens qui cherche actuellement pour les solutions, pour les problèmes assez graves et assez troublants. Et c'est très important de constater que le vrai commencement, le vrai début du changement de notre politique de la ville a été pendant les années 60, pas à cause tout simplement de notre mouvement pour les droits civiques, mais aussi des émeutes meurtrières entre 1963 et 1968. Nous avons détruit pas mal de quartiers noirs auprès de cette période. Et je pense que pendant des émeutes que nous avons vécues tous les étés, vous vous souvenez peut-être de l'expression « long hot summer », les étés longs, longs et chauds. Et c'était vraiment une façon pour les gens qui étaient résidents de ces quartiers de s'exprimer. Ils ont dit, bon, très bien, si vous ne voulez pas écouter ce que nous avons essayé si fort de vous dire, bon, très bien, on va créer une situation que vous allez trouver impossible d'ignorer. Et donc, après C'était le président Johnson qui a créé une commission sur l'investigation des insurrections civiles, que nous avons vraiment commencé d'avoir une politique tout à fait nouvelle aux États-Unis. Et je pense même, en pensant de cette époque de notre histoire américaine, si vous êtes ici en France en train de faire plus ou moins la même chose.
L'histoire américaine comme un projecteur pour éclairer d'une manière un peu différente l'histoire contemporaine dans les banlieues, notamment françaises. Mindy et Robert Foulilov, merci beaucoup pour avoir participé à ce moment de débat, ainsi que vous, Michel Cantal, et ainsi que Fred Kahn. Sébastien Gély assurait la technique de ce plateau, je le remercie bien sûr aussi. Prochain rendez-vous dans le cadre de notre thématique Babil, Babel, Babylone. C'est le dimanche 8 octobre à 13h30 avec Territoire de langue proposé par Marc Voiry avec pour invité Sonia Chiambretto. En attendant, restez à l'écoute de La Grenouille. Mm-hmm.